Bienvenue dans ce podcast réalisé dans le cadre de notre formation en urbanisme. Aujourd'hui, nous vous proposons d'explorer avec nous l'impact de l'environnement urbain sur les équipements publics, et plus particulièrement sur les maisons de quartier. En tant qu'étudiants en urbanisme, nous avons voulu nous interroger sur la manière dont un territoire façonne l'usage des espaces publics, l'organisation d'un quartier, ses équipements, l'évolution de sa population. Tous ces éléments influencent la façon dont les habitants s'approprient les lieux de vie commune et le fonctionnement des équipements, qui évoluent avec le territoire et sa population. Souvent vus comme des objets urbains autonomes, certaines études soulignent cependant l'impact des équipements et espaces publics sur le territoire sur lequel ils s'inscrivent. Cependant, il semble apparaître qu'aucune étude ou recherche ne se soit intéressée à l'influence du territoire sur les équipements publics. C'est ce qui nous a conduit à nous intéresser aux maisons de quartier. Des espaces ancrés, localement et sensibles aux transformations urbaines. Comment les mutations d'un quartier impactent-elles leur fréquentation et leurs usages, et comment ces équipements s'adaptent-ils aux évolutions de la population? Pour mieux comprendre ces dynamiques, nous avons mené notre enquête dans deux quartiers rennais aux histoires et aux réalités bien différentes, Villejean et La Touche. À travers les témoignages d'adhérents et de directeurs de maisons de quartier, nous tenterons d'éclairer les liens entre territoire, population et équipement public. Bonne écoute. Pour ouvrir ce podcast, nous vous proposons d'écouter Solène Rouxel-Leguillot, directrice de la maison de quartier de La Touche. Comme vous allez l'entendre, ce quartier situé proche du centre assume aujourd'hui un rôle social important qui répond à un nouveau besoin du territoire. Cependant, cette nouvelle fonction amène aussi de nouveaux défis pour cet équipement.
Je suis actuellement directrice de la maison de quartier La Touche. Ces dernières années, on s'est fortement orienté vers le social. À l'origine, donc, nous sommes une maison de quartier à vocation généraliste. Nous sommes dans un quartier où on trouve une forte mixité sur ce quartier. Il y a quelques années, c'était un quartier plutôt pavillonnaire, où résidaient beaucoup de nos aînés. Avec de multiples réaménagements urbains, on a vu quinzaine d'années arriver les jeunes couples avec des enfants en bas âge. Nous avons aussi, des habitants aux revenus aisés, notamment beaucoup de médecins résident sur ce quartier, puisque nous avons Pontchaillou, le CHU à proximité. Sur ce quartier 3, nous sommes l'Iris, La Touche, où il y a le plus de bailleurs sociaux et de logements sociaux. Auparavant, sociaux étaient habités par, des seniors qui, petit à petit, d'année en année, quittent ce quartier. Et ce sont des familles nombreuses qui arrivent sur ce quartier La Touche. La maison de quartier propose différentes animations, actions, pour aussi proposer une mixité entre tous ces publics sur notre maison ou sur les espaces publics.
Pour compléter le témoignage que vous venez d'entendre, nous vous proposons maintenant d'écouter Jean. Adhérent depuis 1982 et mémoire vivante de la maison de quartier, sa parole est un éclairage précieux pour comprendre les évolutions du territoire, mais aussi et surtout leur impact sur la maison de quartier. Nous vous laissons maintenant avec ce personnage haut en couleur.
Je m'appelle Jean, je suis né le 30 décembre 1932 et j'ai 92 ans. J'habite comme dans le quartier de La Touche depuis 1968. Le quartier de La Touche a toujours été un quartier sympathique. Alors quand on est arrivé en 68, là, c'était un quartier agréable, accueillant. Au point de vue site, il y avait le grand parc et tout ça, on se croyait un peu... On va en campagne, puisque j'ai toujours entendu l'ancien maire de Rennes et maire Edmond Hervé. La Touche, c'est un petit village au centre de la ville. Il y a eu des constructions nouvelles. Alors, dans la société, il y avait le cadre de vie, il y avait des ouvriers, il y avait des employés de bureau, des directeurs ou des sous-directeurs d'entreprise et tout ça. Donc, c'était un amalgame de quartier. Tout le monde se connaissait. Tout le monde se parlait, il n'y avait pas de différence de classe. Ben, elle a ouvert en 1980. J'ai été, quand la maison de quartier était là en face du square La Touche, j'étais 13 ans président de maison de quartier, de 1990 à 2004. Alors la maison de quartier, là, était bien, parce qu'il y avait une grande salle. On avait une grande salle, on pouvait mettre 200 personnes dedans à manger. En ce moment, à la maison quartier, je suis responsable d'un club de tarot. Hein. Alors, je vais jouer au tarot le lundi. Le mardi, c'est le mardi senior. Alors, je joue soit à la belote ou au tarot. Le mercredi, je retourne au tarot. Et le jeudi, je vais au club au parc. Hein, jouer au tarot et tout. Avant, il n'y avait pas de social ici. C'était l'environnement et puis les gens du quartier, la sympathie rapprochait les gens du quartier. Tandis que maintenant, c'est du social.
Ça lui remplaçait là-bas. La maison de quartier se trouvait en face le parc de la Touche. La ville a décidé de transplanter la maison de quartier de la Touche, qui était rue du commandant Charcot, dans l'ancienne caserne. Oui, ben là, elle n'est pas accessible. Hein. Les gens, ils viennent, comme disait l'élu du quartier, ils viennent soit en bus ou en métro. Bon, on peut mettre, quand c'est familial, ils arrivent à mettre toute leur voiture là, parce qu'ils se servent dans tous les sens, mais autrement, c'est pas accessible. On était un peu retiré à côté du parc de la Touche. Mais c'était bien, parce qu'on faisait des animations, au sein de la maison et dans le parc.
Si ces dernières années, la maison de quartier La Touche a principalement changé du fait des transformations urbaines et de la spécialisation de sa mission, ce n'est pas le cas pour toutes les maisons de quartier rennaises. C'est ce que permet de mettre en avant le témoignage de Fabien Donnet, directeur de la maison de quartier de Villejean, qui constate la préservation du quartier, mais pas de la sociologie de ses habitants.
Alors moi, je m'appelle Fabien Donnet et je suis un animateur de l'éducation populaire. La maison de quartier, c'est un équipement de la ville de Rennes, donc qui va avoir 50 ans en novembre. Elle a été inaugurée en novembre 1975 et qui a été bâtie sur une très, très forte mobilisation habitante. À partir des années 70, il y a des habitants qui se mettent à habiter à Villejean. Alors Villejean, c'est un quartier atypique dans le sens où c'est un quartier qui est doté de grandes institutions. Il y a l'École nationale de la santé publique, le CNRS, il y a Rennes 2, il y a Pontchaillou. Et donc, dans les années 70, il y a de nombreux cadres de la santé publique qui arrivent et qui s'installent. Et il n'y a pas d'équipement pour les jeunes, pour les familles, pour les rencontres. Sur l'association Rencontres et Culture, oui, il y a eu plein de mutations. La majeure est en 2018, où une position de la ville de Rennes, il y a deux associations qui se sont retrouvées à fusionner. Alors fusionner, ça s'est plutôt passé sous une association qui avait 40 ans à peu près, gérait un équipement qui s'appelait la Maison Verte, a dissous son activité et fait un transfert d'activité à Rencontre et Culture. Ce qui veut dire que l'association Rencontre et Culture, qui gérait qu'un seul équipement, gère aujourd'hui deux équipements, la Maison de quartier de Villejean et la Maison Verte, et a intégré l'équipe de la Maison Verte dans son équipe, et on assure aujourd'hui l'animation. Voilà. Le secteur géographique, c'est le quartier de Villejean. Alors on l'appelle le quartier de Villejean-Beauregard. Le quartier administratif, c'est Villejean-Beauregard, mais on a vraiment deux quartiers particuliers. Villejean, qui est un quartier qui a 50 ans, puis Beauregard, qui est un quartier qui est plus récent, qui est de l'autre côté de l'avenue, et qui a une quinzaine d'années, je pense. Moi, je l'ai connu, gamin, c'était que des champs. Et donc, on est vraiment là sur un quartier de Villejean, qui est un quartier avec un tissu associatif dense, qui est pas mal doté en équipement et en école aussi. Je crois qu'il y a 4 ou 5 écoles. C'est un quartier à taille humaine, même si on est 16 000 habitants, je crois, sur Villejean. Ça reste facilement circulable et il y a pas mal d'espaces verts, donc il y a des lieux de repli. On est dans une réalité de territoire qui a profondément changé. Hein. Là, on parlait des évolutions de territoire, mais en fait, ici, on est sur un quartier avec un nombre de familles monoparentales important et des familles nombreuses. Quand la maman, elle est seule et qu'elle travaille, en fait, c'est la fratrie qui va faire office de mode de garde. Donc, on est percutés par des réalités de territoire qui ne marchent plus dans nos territoires, contrairement à d'autres maisons de quartier, c'est qu'on a tendance, par les dispositifs qui existent, la CAF, Jeunesse et Sport, à sectoriser les tranches d'âge. De l'autre côté, on a une augmentation de la pauvreté sur le logement social. Et on a aussi un logement social qui se renouvelle très régulièrement. C'est-à-dire que les gens aspirent à aller vivre ailleurs. Ce n'est pas un quartier qui jouit d'une notoriété exceptionnelle. Quand on arrive à Vigan, on regarde déjà où on peut aller ailleurs. C'est d'autant plus important qu'on est dans un quartier qui est déconsidéré. Que ce soit dans les médias, on vante rarement les qualités d'un quartier populaire.
Comme a pu l'évoquer Fabien Donnet, le quartier de Villejean est un quartier qui a subi très peu de changements depuis sa construction. Malgré cela, il est passé d'un quartier prisé par la classe populaire rennaise à un quartier de transition avec une population jeune ou précaire. Cependant, la parole de Marie-Claude, adhérente à la maison de quartier depuis 25 ans, permet de mettre en avant que ces changements d'environnement peuvent avoir un impact très modéré sur le territoire vécu par les habitants.
Alors, je suis Marie-Claude Monnier, j'ai 78 ans, je suis retraitée de l'éducation nationale.
De manière générale, qu'est-ce qu'une maison de quartier pour vous ?
Eh bien, ça, toutes les personnes qui ont envie de venir, il y a plein de choses à faire et ça fait rencontrer les personnes. Parce qu'autrement, moi, il y a des personnes que je n'aurais jamais rencontrées si je n'étais pas venue ici. On a des affinités ou pas, on se rencontrer en dehors, enfin bon.
Ça fait un vrai lien social.
Ah ben oui, moi c'est comme ça que j'ai connu des personnes.
Y a-t-il eu un moment dans votre vie où la maison de quartier a été particulièrement importante pour vous ?
Non, pour moi c'est toujours pareil.
Depuis 25 ans.
Oui. Il y a du théâtre, qu'est-ce qu'on fait encore d'autre ? On fait les sorties le vendredi, il y a le Scrabble. Puis quand il y a des spectacles dans la salle en bas, on vient. Ça fait venir les personnes le samedi, même celles qui ne dansent pas, elles écoutent de la musique.
Est-ce que vous considériez que votre lieu de vie a eu un impact sur votre utilisation de ce lieu ?
Parce que c'était ça qui était à côté.
Donc, tout à l'heure, vous disiez que oui, vous avez créé de réels liens avec les adhérents ou même l'équipe animatrice.
Ah oui. J'ai connu une très bonne amie, malheureusement, qui vient de décéder, qui était partie à Antibes. Et vraiment, c'est ici, à la maison de quartier, qu'on s'est connus.
Il ressort alors de ce témoignage que si la nature des facteurs influençant les équipements publics, tels que les maisons de quartier, diffèrent, l'influence de l'environnement dans lequel elles s'inscrivent est importante et peut changer drastiquement leur fonctionnement ou leur mission. Nous tenons à remercier Solène, Rouxel Le Guillou, Fabien Donnet, Jean et Marie-Claude pour leur temps, leurs paroles et leurs regards précieux qui ont grandement enrichi cette réflexion. Nous souhaitons également remercier Julien Torchin, enseignant-chercheur et encadrant de notre atelier, ainsi que CELAB pour le soutien technique et les précieux conseils qu'ils nous ont fournis. Merci pour votre écoute et nous espérons que ce court podcast vous ait plu. Ce podcast vous a été proposé par Enzo Panchèvre, Étienne Degrave et Nadège Chanava. Musique de Nicolas Cruz, Cumbia del Olivido, enregistrée à la maison de quartier de Villejean.